qua te, le dominique, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Et en petite métaphore, on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur les collègues Garrigues Montpellier, Canassu à Toulouse et Radio Primitive sur un. C'est les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir, on va commencer notre émission sur Aurore Martin, son arrestation, dite surprise, et puis son extradition vers l'Espagne. Alors j'en suis même persuadé qu'on avait fait une émission avec elle, justement, il y a quelques mois.
En juillet 2011,
ouais, ça fait plus d'un an.
Fin juin 2011,
ouais. Et là, je crois que tu nous en as fait tirer un extrait.
J'en ai tiré plusieurs. Donc là, on va écouter Aurore Martin elle-même parlant de son cas. Donc avec, il faut rajouter le ton supplémentaire parce qu'elle dit. Après, il y a un extrait, mais je sais pas, peut-être que vous poserez entre les deux, puisqu'il y avait une radio qui était présente lors de sa première interpellation, tentative d'interpellation qui n'a pas eu lieu. Et puis il y a j'ai repris un truc de François Hollande, candidat à la présidence de la République, qui en juillet 2011, donc juste un petit peu après, qui se prononçait par rapport à Aurore Martin. Et vous allez voir, parce que tout le monde a cru que si Hollande passait, Aurore Martin serait pas envoyé en Espagne. C'est pas tout à fait ce qu'il raconte. Voilà. Alors d'accord. Donc on commence tout de suite par Aurore qui se raconte, quoi.
Pendant 6 mois, j'ai bougé de maison en maison, de famille en famille. Je pense que je suis aussi arrivée aux limites de moi, ce que je suis prête à accepter. Et 6 mois, c'est déjà long. C'est vrai que j'envisage bientôt mon retour. Dans les jours, semaines qui viennent, comment il se fera, je ne sais pas exactement encore, mais je compte revenir à la vie publique, à ma militance publique et à faire une apparition publique. Je suis accusée d'association de malfaiteurs, donc d'actes terroristes. Pour mon seul délit de m'être exprimée publiquement lors de différents événements, au nom, on dira, de mon de ma formation politique. Il y a un article d'opinion que j'ai écrit et signé avec un autre militant dans le journal Gara, journal diffusé au Pays Basque. Il y a un meeting où j'ai participé à Naitasuna à Pampelune, où nous avons expliqué notre projet politique. Ce qui m'est reproché, c'est d'avoir fait la prise de parole, l'introduction du meeting, donc où je rappelle, où je contextualise 30 ans d'histoire du Pays Basque. Je dis rien d'exceptionnel. Hein. Nos déclarations sont des déclarations en faveur d'un processus de paix. Le contenu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a de gênant. Et ce sont des délits, politiques. De toute façon, je ne vais pas dire que je ne les ai pas faits, puisque les délits qui me sont reprochés ont été filmés, retransmis en télé. Je veux dire, on nous a laissé faire ces meetings, on nous a laissé faire ces conférences de presse. Ça a été relayé au niveau médiatique. Donc, il n'y a aucun problème avec le contenu et le fait que c'était moi et le fait que c'était Batashuna. Peine maximale requise, 12 ans. 12 ans, c'est ce qu'il pourrait demander. C'est pas forcément ce qu'il mettrait en application, mais c'est pour un délit d'opinion la peine qui est requise. Donc c'est difficile quand même, parce que un délit d'opinion, 12 ans de prison pour un délit d'opinion, aujourd'hui il y a beaucoup de gens en prison pour du délit d'opinion. Alors ils n'ont pas pris 12 ans, hein. 2, 3, 4, 6 ans, mais c'est beaucoup. J'avais aussi l'impression que depuis le début, quelque part, je me soumettais un peu à tout ça. Je vais à Pau, oui. On me met en prison, signe d'engagement, j'ai un travail, j'ai une adresse, je vais être libérée, je serai là jusqu'à la fin de la procédure. Je viendrai, promis, oui, promis. Moi, j'ai un peu senti ça, puis j'ai un peu senti que tout ça, c'était de la mascarade, puisque sur toute la procédure, on m'a interrogée qu'une seule fois. C'était le jour de l'audience. Voilà, au tribunal. J'ai eu 3 minutes pour m'expliquer. C'est que de la mise en scène et c'est jusqu'à la cour de cassation. Parce que là, oui, je me suis dit, bon, ben, voilà, on y est là. Ça sert à quoi de faire des recours juridiques si vous êtes même pas présent, si vous êtes même pas au courant? Parce que quand même, la cour de cassation connaît mon adresse pour m'envoyer une semaine avant. Alors moi, je savais pas que j'avais l'audience. Mais à peu près une semaine et demie avant, j'ai reçu un courrier chez moi, en lettre recommandée, qui me donne la facture de ma plausible audience prochaine en cour de cassation. Donc la cassation m'envoie combien me coûte mon recours. 368 euros. Je tiens à le préciser parce que j'ai le courrier à la maison. Mais dans ce courrier, il n'y a aucune mention de la date d'audience. Et après ce courrier, j'ai jamais reçu d'autres courriers me demandant de me présenter à telle date. Donc, on sait où me joindre pour me réclamer de l'argent, mais pas pour m'auditionner. Je serai présentée à Madrid. On verra ce qui se passera à Madrid. Je suis consciente que je vais faire de la prison. Maintenant, c'est que ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me rendre, je ne vais pas faciliter. Voilà. Je ne me vois pas vivre comme je vis jusqu'à maintenant, donc je sais que Madrid est une échéance. Pour moi, il est possible que la mobilisation ici, plus elle sera grande et plus elle sera ouverte, influe la décision de Madrid, mais pas de Paris. Paris, c'est déjà fait. La cassation a dit oui. Disons que la France, le système judiciaire français et les courants politiques français, puisqu'ils sont au courant, hein, il ne faut pas croire. Donc la France a dit oui. Et puis, ce qu'ils n'avaient peut-être pas mesuré, c'est qu'on ne peut pas appliquer un mandat d'arrêt européen pour des faits politiques. Pourtant, il s'applique pour moi. Et c'est un précédent en France. Et je crée un précédent. C'est que demain, n'importe quel pays pourra réclamer un ressortissant français pour X raisons. Donc c'est un précédent, et au niveau politique, c'est grave. On me reproche le meeting à Ustaritz qui a été sorti de mon dossier, mais à Ustaritz, on fait, Batashuna a fait un meeting politique qui était la suite d'Anaitashuna, là où j'ai participé et où cette date a été retenue. Mais à Ustaritz, on fait un projet politique pour tout le Pays Basque, avec un projet d'autonomie pour le Pays Basque Nord, un projet d'autonomie pour le Pays Basque Sud, avec un cadre général et divers champs, je ne vais pas rentrer, mais sur les compétences linguistiques, au niveau de la santé, de gestion, la fiscalité, c'est-à-dire on a tout revu, et pas que nous. Et donc à Ustaritz, quand on met en avant ce projet-là, on comprend bien que là, politiquement, c'est pas, on devient un élément gênant pour la France. Moi, je le lis comme ça, on devient un élément gênant. Comment enlever l'élément gênant du contexte? Eh bien, c'est très simple. Soit on l'enlève et on rentre en confrontation, ils veulent pas, c'est le pays des droits de l'homme, ça n'existe pas, c'est ce qui est faux en plus. Hein. Soit, eh bien, on trouve une brèche. Le juge espagnol et français s'entendent bien. Brèche ouverte. Sarkozy a ouvert tout. Le 11 septembre a permis quand même d'ouvrir plein de choses et d'ouvrir plein de portes. Et Sarkozy a dit. Ici, les portes sont ouvertes. Pour dire la vérité, dimanche, j'ai pleuré à la vue des résultats. Bon, j'étais toute seule devant ma radio, mais j'ai vraiment... Ça fait huit ans que toute une tranche de la population n'a pas d'expression politique, parce que 8 ans d'illégalisation. Et ça fait 8 ans qu'on bataille pour arriver à ce qu'on est arrivé dimanche. Donc c'est pour nous, enfin pour moi, c'était en tout cas énorme, puisque c'est une victoire politique, une victoire démocratique. On a réussi à se présenter pas en tant que Batashuna, puisque c'était quand même Bildu est une coalition bien plus large en faveur du Pays Basque. Le succès est énorme, puisque première force en Guipuscoa, en province de Guipuscoa, c'est qui est énorme, et quasiment deuxième force partout. Donc ce qui a aussi permis de dire au gouvernement espagnol quelque chose qu'il nous a répété pendant des années, c'est-à-dire on ne donnera pas d'importance à un projet minoritaire qui ne représente même pas 1% de la population, ce qui est faux. Il y a un État souverain, indépendantiste, Mais tout ça, on y arrivera par la voie des urnes, par les voies démocratiques, un projet social de gauche. Moi, je suis quelqu'un de foncièrement de gauche, ancré même extrême gauche. Donc voilà, on défend des valeurs. J'ai été scolarisée à l'Ikastola. L'Ikastola, c'est l'école basque en immersion. Donc c'est vrai que bon, déjà conscientisé à la langue, déjà jeune dans des revendications sur l'officialisation, sur le statut. Moi j'ai eu la chance de pouvoir passer par exemple mon BEPS en basque. Voilà, ce sont des petites luttes, mais c'est vrai que déjà nous avions une âme peut-être de militant. Enfin je dis nous, moi et les autres. Je suis originaire de Mauléon, donc j'ai commencé à batailler devant les associations, à monter ce qu'on appelle des maisons de jeunes où on faisait du théâtre, de la musique, des concerts, enfin, bon, des trucs de jeunes. Et puis bon, je crois que tout ça est venu de fil en aiguille. Il s'est passé un événement où il y a eu une arrestation. Large où dedans ont été arrêtés beaucoup de mes amis, les amis d'école, amis d'enfance, et puis ma sœur. Et tout le monde a été libéré, et un mois après je me suis fait arrêter dans le cadre de cette rafle, mais toute seule. Mais par contre, moi, je suis montée à Paris, j'ai vu la juge antiterroriste et j'ai fait un mois de prison. J'ai eu un non-lieu au sorti de ma prison puisque mon dossier était archi vide. J'ai aussi compris que on m'a fait comprendre que bon, c'était un peu pour me mater, hein, parce que des raisons il n'y en avait pas. Et je suis sortie de là et je me suis dit à moi-même, plus jamais. Un an après, j'intégrerai Patachouin, enfin, en tant que militant vraiment actif. Je voulais avoir des responsabilités, je voulais, en partie, pas prendre ma revanche, mais je voulais, je me disais, c'est pas possible. Enfin, comme je savais que moi, j'avais rien fait, je me disais, c'est pas possible, ça, c'est politiquement une volonté de casser du jeune pour pas aller de l'avant. Donc, à moi de me charger politiquement de bagages, et de ne pas me laisser faire. J'ai intégré l'équipe militante de Batachouin, mais j'ai accepté aussi certaines responsabilités, donc de faire partie du bureau national. J'ai appris beaucoup de choses. Bon, j'étais très jeune, 24 ans en politique, c'est rien, avec zéro parcours politique, donc je suis arrivée à ce moment-là. Peut-être qu'il y a une frontière, mais nous nous côtoyons au quotidien, donc il y avait aussi... cette envie d'avoir un parti commun, d'avoir des espaces communs avec un projet commun. La perquisition de Batachouin, je pense que bon, jusqu'à Paris, il y a eu écho, parce que c'était la première fois quand même qu'on rentrait dans des locaux politiques et puis de cette ampleur-là. On était 15 en garde à vue, 15 militants. Donc c'est sûr que tous ces dossiers sont ouverts, mais tous ces dossiers sont en enquête et ça fait des années. Alors c'est sûr que peut-être que je serai inculpée à 50 ans de quelque chose que j'ai fait quand j'avais 25 ans. Ça on en est conscient et c'est souvent le cas au Pays Basque. Hein. Souvent on vient vous chercher bien après, mais c'est volontaire. Quand vous avez une famille, un travail, une vie sociale. Maintenant oui, mais sur le moment je mesurais même pas les conséquences juridiques et politiques de ce que j'étais en train de dire. J'étais trop fière, trop quand on fait ce genre d'apparition publique avec le contenu que ça a quand même. Hein, c'est plus de la fierté qu'autre chose qu'on a et on se dit que voilà, ce qu'on fait c'est bien pour Euskal Herri, c'est bien pour demain, c'est bien pour arriver à un cadre de paix. Moi j'étais dans cette démarche là, donc en aucun cas que je prenais un risque, oui, un danger oui, puisque c'était illégal, je suis pas non plus stupide, je savais que... Mais je me disais, c'est pas possible, parce que ce qu'on fait, nous, c'est bien.
Oui. Bon, bah. Oui. Tu...
Alors, commentaires, oui.
On fait les commentaires ou pas?
Peut-être on peut rappeler le contexte particulièrement du discours là d'Aurore Martin. Donc, c'est à l'issue de la tentative, de sa première tentative d'arrestation à Bayonne. À ce moment-là, Aurore a déjà connaissance et du rejet du mandat d'arrêt européen extérieur. Alors, peut-être qu'on écoute autre chose ou, oui, tu veux écouter Hollande?
Non, avant il y a autre chose, je crois que c'est son arrestation.
Non, c'est sa première interpellation.
Non, tentative d'interpellation.
C'était une interpellation, mais qui a échoué, parce que vu qu'il y avait du monde, les flics sont repartis les mains vides.
Donnez-nous, on prend. Au revoir, on a la radio.
On y va.
Attendez, pas radio dentaire.
Je vais la prendre, je vais la prendre. Je vais la prendre.
Je vais ramener là-bas.
Je vais partir. Mademoiselle Martin, s'il vous plaît.
Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Mais doucement, mais doucement. C'est bon.
Mais non, non. Démocratie. Vous avez été préparé cette affaire.
Non, vous n'avez pas le droit.
Nos images sont exclusives, ce sont celles de l'interpellation ratée d'Aurore Martin cet après-midi à Bayonne. La militante de Batachouna, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, est revenue à la vie publique samedi après 6 mois de clandestinité. La tentative d'arrestation a eu lieu chez sa sœur en plein centre-ville, mais sous la pression de son comité de soutien, la police a dû renoncer.
Ils sont arrivés à l'appartement, ils ont essayé d'ouvrir, mais j'avais dit que j'essaierais de résister au maximum à l'arrestation. Et donc, à un moment donné, ils ont forcé la porte et ils m'ont emmené de force. Ça a été assez violent. Ils se sont pas présentés, ils sont rentrés cagoulés et comme j'ai pas voulu venir, ils m'ont pris les jambes, les bras, ils m'ont emporté comme un saucisson.
La mobilisation a encore été présente et cette mobilisation a obligé la police à pousser chaud et laisser Aurore en liberté.
En effet, les forces de l'ordre ont fait demi-tour et Aurore Martin, escortée par un groupe d'amis, s'est réfugiée sur la place Saint-André où la tension était palpable. Le porte-parole de Batachouna a dénoncé cette tentative d'arrestation.
Aurore Martin est une membre du bureau national de Batachouna. Ni plus ni moins, ça, une membre du bureau national de Batachouna. Donc, on mesurera tous la gravité de ce que signifierait sa livraison aux autorités espagnoles et son incarcération.
Des élus bayonnais sont également venus apporter leur soutien à celle qui est accusée d'avoir participé à des réunions publiques d'un parti interdit en Espagne.
On sait qu'elle n'a commis aucun acte délictueux, on sait que l'organisation à laquelle elle appartient n'est pas interdite sur le territoire français, on sait que ce dossier est vide et je pense que l'Europe s'honorerait à ne pas mettre en œuvre de telles procédures dans de tels dossiers.
Ce soir, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, affirme que le mandat d'arrêt sera mis en œuvre.
Il y a une justice, il y a des règles de droit et en même temps, il faut les appliquer à bon escient. Et dès lors qu'elle s'est rendue d'elle-même, je pense qu'il y avait un principe de clémence à faire respecter.
Claude Guéant avait dit qu'il faut l'arrêter.
Claude Guéant, il en dit toujours beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est faire les choses justes. Hein. Il y a des investigations qui doivent être poursuivies. Et puis en même temps, lorsqu'une personne se rend spontanément, il faut avoir le souci de la clémence. C'est-à-dire de voir dans l'état de droit dans lequel nous sommes, parce qu'il faut faire les choses régulièrement, ce qu'il est possible de faire.
C'est-à-dire ne pas l'extrader en Espagne.
C'est-à-dire regarder en bonne intelligence avec nos amis espagnols, parce qu'il y a des règles entre nos deux pays, de voir ce qu'il est possible de faire. Donc ce que devraient faire les autorités françaises, c'est plutôt chercher une solution.
Ouais, c'était Hollande, c'est ça?
Non, c'était Léon.
C'était Hollande en juillet 2011.
Oui. Et là, il ne dit pas, contrairement à ce qui se dit dans la presse aujourd'hui au niveau de ceux qui font des pétitions, etc., il ne dit pas que s'il est au pouvoir un jour, il ne ferait rien pour qu'elle échappe finalement à la justice, à une décision judiciaire.
C'est par ailleurs, il ne faut pas ignorer l'histoire, sous la présidence de Mitterrand dans les années 80, il y a eu des dizaines de Basques, alors d'Espagnols pour le coup, qui trouvaient refuge dans la partie nord du Pays Basque, qui avaient été extradés par les gouvernements socialistes, hein. Donc à l'égard du mouvement Abertzale, le Parti Socialiste et la gauche, si elle a pu être d'une sympathie dans les toutes premières années de l'affrontement et de l'histoire du mouvement Abertzale, elle n'a jamais été en totale sympathie. Voilà, quand même, cette arrestation et cette extradition, elle intervient dans un contexte un peu particulier quand même, notamment du côté espagnol, puisque Lundi dernier, donc l'arrestation et l'extradition. Alors l'arrestation a lieu mercredi et l'extradition a lieu jeudi. Et lundi dernier, il y avait eu une longue interview de Valls, de ministre de l'Intérieur, dans El País, qui est le principal quotidien espagnol. En plus, il s'était largement fait brosser le costume, puisque vous le savez peut-être, mais Valls était espagnol avant d'être naturalisé français, pardon. Il est le fils il est le fils de républicains de gauche qui sont arrivés en France au début des années 50, je crois, je suis pas sûr, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc lundi il y a eu cette interview, il y a trois jours également la justice française a refusé de faire fonctionner un MAE contre un membre d'une organisation de jeunesse qui s'appelait chez Guy puisqu'elle n'existe plus. Ce membre s'appelle Arturo Villanueva, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que vous voyez, hein, effectivement, ce MAE il peut être appliqué ou pas appliqué. D'ailleurs il avait pu être rejeté pour d'autres membres de Batasuna et d'autres membres d'autres organisations. Dimanche dernier, il y a eu l'arrestation de deux personnes membres présumées de TA selon l'expression journalistique consacrée, dont une personne qui s'appelle Argüelles, qui est en cavale depuis 2007. Et donc voilà, on est quand même dans ce contexte-là. Et puis surtout, du côté espagnol, on a un parti populaire qui, donc la droite espagnole, hein, directement issue du parti de gouvernement fasciste de la tradition historique espagnole. Et on a actuellement un parti populaire qui pédale un peu dans la semoule avec ses réformes structurelles et ses réformes économiques et qui est fortement contesté dans la rue. On se souvient comment ETA a pu être utilisé aussi par le pouvoir et pour le pouvoir, par exemple lors des attentats de Madrid. Alors que le gouvernement et le Premier ministre Aznar possédaient des informations qui mettaient hors de cause, et de toute façon les méthodes de toute façon de ces attentats mettaient largement hors de cause l'organisation basque, s'était permis de porter l'accusation sur ETA pour pouvoir toujours créer ce sentiment de peur et lui-même disposer d'une légitimité.
Ouais, je crois qu'aussi par rapport à cette situation-là, on est quand même dans une nouvelle situation, puisque ETA normalement a arrêté toute action sur le terrain. A rendu les armes, non pas vraiment, puisque les armes n'ont pas été rendues, mais actuellement, normalement, on devrait rentrer dans un processus de paix, où, comme dit d'ailleurs Aurore Martin, le mouvement basque a décidé de tout baser sur les élections, c'est-à-dire faire en sorte de gagner l'indépendance, ou peut-être pas l'indépendance, mais tout au moins une certaine autonomie, oui, c'est ça. Par la voie électorale. Ils y croient beaucoup, puisque aux dernières élections, effectivement, dans une province, elle le dit, Aurore Martin, en 2011, dans une province, ils ont été la première force politique. Puis dans tout le Pays Basque Sud, c'était quand même la deuxième force politique aux dernières élections. C'était quand même une nouveauté. C'était pas Batasuna, c'était une autre organisation. Là, il faut savoir que quand même l'État espagnol, c'est quand même un État qui est extrêmement, encore plus répressif que celui de France. La torture est appliquée quasiment systématiquement à ceux qui sont arrêtés. J'espère qu'Aurore Martin ne sera pas dans ce cas-là, mais peut-être que non, puisque je crois que si c'était le cas, ça ferait peut-être encore beaucoup plus de bruit. Hein, et puis ensuite, elle a quand même la nationalité française, quelque part, ça doit la protéger des exactions de la police espagnole, tout au moins on l'espère, hein, puisque cette police espagnole est très connue et reconnue pour avoir fait, malgré que ça soit, paraît-il, un État démocratique, entre guillemets, beaucoup de guillemets d'ailleurs, elle est reconnue pour avoir, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est arrêté et qui est soupçonné de terrorisme, eh bien cette personne est enfermée pendant 12 jours, je crois, déjà, et elle subit des tas de trucs, en particulier les tortures.
Sans visite et sans avocat. Alors, pour te donner des précisions sur la trêve d'ETA, en fait, ETA a lors de la conférence de presse du 20 octobre 2011, a affirmé renoncer à la violence en tant que pratique, mais pas à ses objectifs, qui est pour elle, alors je cite, l'établissement du socialisme et d'une nation basque. Alors donc, c'est ça en fait, c'est l'abandon de la violence d'une part, mais le refus du dépôt des armes, donc de la remise des armes comme ça pouvait être fait lors du processus de Pâques en Irlande, et sa dissolution en fait, le fait qu'elle n'existe plus en tant qu'organisation distincte et séparée. Mais tu l'as dit, le contexte est quand même aussi particulier, puisque il y a eu cette espèce d'immense coalition qui s'appelle Bildu, qui est arrivée en tête dans les élections du Pays Basque Sud, avec notamment la majorité relative, 32% et demi en Guipuscoa, et puis pas mal de conquêtes dans les instances régionales du Pays Basque Nord. Donc en fait, voilà, la situation elle est quand même assez particulière, puisque donc Martin, elle a été donc présentée devant le juge de l'audience nationale assez rapidement, un jeudi, et vendredi, elle a été incarcérée pour appartenance à une organisation terroriste. Donc voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que d'un côté de la frontière, elle appartient à une organisation terroriste, de l'autre côté de la frontière, elle appartient à une organisation qui a des élus.
Oui, Patassoula a des élus du côté français.
Donc, soit cette organisation est terroriste partout, et alors à ce moment-là, on a envie de dire il faut que la France elle prenne ses responsabilités. Soit, alors, il y a vraiment une différence des droits dans.
Toi qui as bossé le dossier, c'est quand même un peu étonnant quand même cette histoire de MAE, pas acceptée pour d'autres, acceptée pour elle. Qu'est-ce qui fait que finalement elle a eu un traitement de défaveur assez significatif de la part des autorités judiciaires françaises, puisque faut rappeler, il y a eu la cour d'appel de Pau, il y a eu ensuite la cour de cassation, il y a eu enfin la cour européenne des droits de l'homme. Bon, tout a été éclusé, quoi, je veux dire, finalement le délit pour lequel elle risque d'avoir effectivement quelques années de prison, c'est simplement un délit, c'est clair, d'appartenance à un parti politique qui est interdit en Espagne et qui est autorisé en France. Et dans ce parti politique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des meetings, elle a fait des textes, et c'est fini, point barre.
Ouais, c'est très soft.
C'est comme nous, finalement. Hein. Sauf que bon... Bon voilà.
Ouais, enfin, on n'est pas dans le même contexte politique à Reims. Hein. Ouais, c'est dommage, mais bon, enfin dommage tant mieux. On peut encore papillonner un peu. Bah, je sais pas. Il n'y a pas une hypothèse. Il y en a plusieurs. Il y a effectivement la possibilité de l'utilisation de la carte ETA et Aurore Martin par le Parti populaire en Espagne. Il y a personnalité particulière quand même de ce ministre de l'Intérieur avec son histoire et, comme je l'ai dit, sa visite en Espagne la semaine dernière, ou peut-être qu'on lui a tenu un discours spécifique en lui disant voilà, ce que Guéant n'a pas été capable de faire, vous êtes peut-être capable de le réaliser, parce que c'est quand même, faut quand même le signaler, la réaction au Pays Basque, elle est unilatérale, quoi. C'est-à-dire que l'ensemble de la classe politique, alors c'est pas quelque chose qu'on souligne parce qu'on trouve ça chouette, mais c'est quand même assez exceptionnel de voir que l'ensemble de la classe politique est en train d'expliquer que l'État français, Manuel Valls, la justice et la police française a fait n'importe quoi. Mais ça va, quand on dit l'ensemble de la classe politique, c'est du PS à l'UMP, en passant par toutes les composantes, quoi. Alors on n'est pas, faut pas être neuneux. Évidemment, il y a un tel choc là dans le Pays Basque qu'ils sont obligés de s'aligner sur l'opinion publique et générale. Mais effectivement, eux qui ont, je dirais, une pratique politique plus proche, plus sur le terrain que l'État central, voit bien à combien ça va leur faire mal et combien ça va casser toutes les dynamiques de paix qu'il pouvait y avoir, quoi. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'État espagnol et l'État français veulent vraiment la paix avec l'ETA?
Parce que je pense qu'ils veulent de toute façon, et ils essaieront de le faire jusqu'au bout, ils veulent vraiment, il y a l'esprit de vengeance qui est le terrorisme d'État qui de toute façon continuera. On parle du terrorisme de TA, mais nous on parle aussi du terrorisme de l'État espagnol. Et il ira jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'au dernier militant de TA, il sera recherché, il sera mis en prison si on peut, etc. etc. Il n'y aura pas véritablement de... Le processus de paix, il est unilatéral. Il est une décision de TA, il est une décision du mouvement basque aussi en général, hein, puisqu'il y a longtemps que le mouvement basque, bien avant que la décision de TA disait que les armes, ben, fallait passer à autre chose, que ça n'apportait pas ce qu'on escomptait, qui fait que, je pense que c'est quand même unilatéral cette histoire de processus de paix. Mmh. Hein, j'ai jamais entendu l'État espagnol dire ça y est, on va faire la paix maintenant. Non, ils font pas la paix. Non, le terrorisme d'État espagnol va continuer à s'appliquer.
Alors peut-être effectivement qu'il y a une troisième hypothèse qu'on peut mettre en avant, c'est l'histoire de Yonanza, hein, de laquelle on a parlé aussi ici plusieurs fois, qui est un militant qui après sa libération de prison a continué des activités, a été retrouvé mort dans une morgue à Toulouse, dans des conditions qu'on ne sait pas exactement, mais bon, qui était effectivement un lien, un rappel avec ces vieilles histoires de Galles. Donc, est-ce qu'il y a eu une forme de chantage de la part de l'État espagnol? Parce que on ne peut pas ne pas supposer que cette décision ait été prise au plus haut niveau.
Il semblerait au niveau de l'arrestation, hein, que de toute façon c'était clair, ça avait été une décision de la police, de l'arrêter, police gendarmerie, de l'arrêter, puisque il y avait apparemment ils avaient vu là où elle pouvait passer et il y avait des forces de police conséquentes
partout.
Hein, partout.
Enfin, sur tous les itinéraires.
Donc c'était
clair. C'est le premier aussi. Hein,
et qu'on ne nous fasse pas rire quand j'entends Maval ce qui dit j'étais pas au courant, j'étais au courant quand seulement elle était extradée en Espagne. De toute façon, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Quoi. C'est évident que ses services étaient bien au courant, c'est sûr qu'il était au courant, c'est évident. Quant à Hollande, il n'a jamais promis quoi que ce soit, contrairement à ce qui se dit parmi les démocrates français. Hollande n'a jamais promis quoi que ce soit.
On a l'impression qu'il a tout promis, ce mec-là.
Oui, alors qu'il n'a fait aucune promesse, de Dieu.
C'est incroyable. Je ne sais pas sur quoi il s'est fait élu, mais il devait avoir un programme de 10 000 pages où chacun pouvait inscrire ce qu'il voulait comme promesse, quoi. C'est assez incroyable. Bon, de toute façon, il y a eu des manifestations tout le week-end au Pays Basque. Il y en aura certainement encore. Il va se passer plein de choses parce que les Basques sont un peuple qui se bat et qui sait pas faire, même quand on l'emprisonne. Donc à suivre. Mais c'est quand même effectivement plutôt surprenant d'une part, et puis ça annonce de mauvais augure à la fois pour les Basques, mais pour l'ensemble des gens qui se bagarrent, parce que ça veut dire que c'est acté. Que en Europe, un ressortissant européen peut être extradé par son pays pour des faits dans un autre pays, quoi. Donc on a une espèce...
des faits. Tu vas vite là. Des faits.
Si, participation à un meeting, c'est un fait. Enfin, tu vois ce que ça veut dire. C'est, par exemple, l'Italie pourrait demander d'extrader des ressortissants français pour les trucs de gêne. Tel État pourrait. Donc on a une espèce d'organisation d'une justice supranationale là, en fait, qui permet aux États de dealer et de s'arranger entre eux, quoi. Super, mais pas très réjouissant, quoi.
Ouais, surtout que c'est des délits d'opinion, ça, faut le rappeler, hein. Ouais. Je crois qu'il y a que ça, quoi. Alors, on en parlera peut-être de délits d'opinion en Espagne prochainement, puisque, comme vous le savez, on a fait une autre émission à un moment donné concernant ceux qui luttent contre le TGV, et il y avait eu un entartrage qui avait été fait, qui avait été fait à Toulouse, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est ça, à Toulouse, à Bordeaux. Hein. À Bordeaux. Ah. je sais pas, enfin bon, de toute façon dans le sud-ouest, hein, qui avait été fait par des militants français et basques espagnols contre justement la chef de ces travaux. Je me rappelle plus de son prénom, mais oui, bon, c'est pas très grave. Un personnage très connu en Espagne, très haute en couleur, qui est une femme réacte, bien évidemment.
Qui est catalane, qui n'est pas basque.
Qui est catalane, oui, qui est le chef du projet de la TGV. Alors il y a eu un reportage qui a été fait en France, et les quatre Basques qui ont été reconnus comme étant pouvant y avoir fait partie de ces personnes qui ont balancé une tarte à la crème, on risque jusqu'à 9 ans de prison en Espagne. Donc voilà quoi. Et, alors que les faits, là, cette fois-ci, ont été commis sur le territoire français.
Je joue pas avec la nourriture.
On va faire une pause musicale. Allez.
Expulse, lâche rien. À Notre-Dame-des-Landes, dans un bocage à 30 km de Nantes, la mairie et le conseil général du Parti Socialiste veulent construire un aéroport.
Mais depuis 40 ans, la population résiste à ce projet. Et depuis plus de 3 ans maintenant,
des gens s'installent illégalement sur les terres réservées au projet d'aéroport.
Dans un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, entre des espaces de plus en plus uniformisés. Dans un monde qui voudrait maîtriser tant les espaces que ce qui s'y passe. Dans un monde qui voudrait faire de nous des individus prévisibles et rentables.
Alors que d'un côté, on déplore la crise et le manque d'argent, de l'autre, on se lamente sur le surplus d'émissions de CO2 et la destruction de la planète.
Ce serait à chacune d'être responsable et de se serrer la ceinture.
Mais les projets démentiels, eux, sont plus que jamais d'actualité.
Réacteurs EPR.
Ligne à grande vitesse.
Aéroport.
Gaz de schiste.
Et urbanisme galopant.
Rencontre de plus en plus de résistance.
Mais politiques et entrepreneurs sont têtus. À Notre-Dame-des-Landes, ils nous expulsent. On riposte. Contre l'aéroport et le monde qui va avec, grande manif de réoccupation le 17 novembre.
Pour plus d'infos sur la lutte ainsi que les dates et lieux des manifestations, rendez-vous sur le site zad.nadir.org. zad.nadir.org.
Oui, alors par rapport à la ZAD, l'occupation militaire, hein, il y a au bout de ces 3 semaines, là, elle a toujours lieu. La résistance aussi. Les gens qui sont sur place essayent de reconstruire ce que les flics détruisent. On aura l'occasion, bien sûr, d'y aller
et d'en reparler. En plus, on commence à y avoir des petites fissures qui se font dans le consensus politicien local et national. Bon, alors évidemment, tout ça sans parler de qui est-ce qui est à l'origine de cette résistance. Hein. Ce sont les gens qui habitent illégalement. Mais bon, donc, il y a cette manif du 17 novembre. Les gens se bagarrent encore là-haut et espérons qu'ils tiennent bon. De toute façon, le 17 novembre, il faut qu'il y ait le maximum de monde qui vienne. On le répète, il va y avoir des départs collectifs d'un peu partout en France. Vous pouvez vous renseigner. Vous avez raté le Larzac, ne ratez pas Notre-Dame. Vous aussi, vous pouvez, participer à quelque chose. Voilà.
Ah, maintenant, je crois qu'on va parler d'autre chose. Il n'a rien à voir avec tout ça. C'est le journal L'Union, notre torchon local, qui a des difficultés. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un de nos camarades qui a gagné son procès contre L'Union.
Voilà. Donc L'Union, alors pas seulement L'Union, donc les titres L'Union, l'Ardennais, L'Aine Nouvelle, L'Est Éclair et Libération Champagne.
Que des trucs vachement bien.
Ainsi qu'une radio qui s'appelle Champagne FM. Tout ça était dans le giron R100 Média. R100 a décidé de quitter la France, de s'installer en Suisse. Il a créé des journaux en Suisse et il a tendance à laisser partir une partie de son empire, de toute façon pas par le fait qu'il a des dettes monstrueuses. Et donc il y avait une partie qui était dans la balance, qui était sous décision de justice. C'était un de ses fleurons, c'était Paris Normandie. Cette fois, ça a été repris entre autres par d'anciens salariés. Il restait le territoire métropolitain. Donc le groupe CAP qui s'appelle Champagne-Ardennes-Picardie, donc qui avec les titres qu'on a. Et puis il y a une partie sud-est avec Nice Matin, Corse Matin,
du lourd,
la Provence, pour lesquels Rossel, qui est un groupe belge qui, entre autres, Le Soir, mais qui est aussi propriétaire de RTL et d'autres choses. Bon, c'est un gros... Bon, et qui en France a déjà La Voix du Nord, qui a racheté Le Courrier Picard, qui a d'autres titres, il doit y avoir Nord Littoral, etc., qui dépendent de La Voix du Nord. Donc s'intéresser à ce qui restait de ces journaux en France métropolitaine du groupe Persan. Alors au départ, ils avaient négocié pour une alliance dans laquelle le Rossel reprendrait les titres, mais il devait prendre une partie de la dette aussi, donc il devait payer une partie de la dette. Au bout d'un moment, Rossel a claqué la porte en disant que bon, c'était fini, qu'il ne s'occupait plus de ses journaux du groupe Persan. Donc, entre autres, sur la région, ça entraînait 230 ou 250 licenciements sur les 640 personnes qui sont employées par les différents titres, à quoi la CGT s'était toujours opposée. Et puis là, il faut que de toute façon, d'ici la fin décembre, le problème Persan soit réglé, du groupe Persan Média soit réglé. Il y a deux groupes qui, enfin, il y a deux personnes qui essayent de reprendre l'union. Alors, il y en a une, c'est l'ancien rédacteur en chef, ancien directeur de toute la publication, etc. Jacques Tillier, ancien de Minute, etc., etc., qui a été licencié en début d'année. Alors pourquoi il était licencié? Parce qu'il s'opposait justement à la reprise du groupe de l'Union par le groupe Rossel. Et donc, et de l'autre côté, il y a Rossel qui, cette fois-ci, qui revient en disant qu'il a, ça y est, il a racheté, mais il faut que ça passe par des instances obligatoirement. En disant qu'il rachetait, mais cette fois-ci il rachète au prix bas, sans racheter de dette ni quoi que ce soit. Et donc aujourd'hui il y avait un comité d'entreprise exceptionnel dont on ne connaît pas ce que ça a donné. C'était donc, ça s'est passé, donc il y a eu plusieurs étapes, il y a eu une négociation par rapport au groupe aux journaux de l'Aube, et après il y a, cet après-midi il y avait une négociation par rapport à l'Union. Mais ce qui est très marrant de voir, c'est que Tillier a reçu l'appui du président du conseil régional de Champagne-Ardenne. Alors vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il a apporté son soutien à François Hollande lors des dernières élections présidentielles. Voilà comment un peu se règlent les histoires de politiciens. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. On va suivre. Voilà. Et donc on disait tout à l'heure qu'il y avait eu un procès qui était engagé par l'Union et Tillier contre un blog qui s'appelait L'Oignon, qui était une parodie du journal L'Union. Et donc le tribunal vient de rendre son avis, et donc le copain qui s'occupait de ce blog L'Oignon a été relaxé, il n'y a pas de poursuite contre lui, sauf que il y a un mois, les autres ont un mois pour faire appel, donc on va voir ce que ça donne. Alors autre chose, la semaine dernière on vous parlait des demandeurs d'asile de Chalon qui étaient à la rue, dont on avait trouvé une solution pour 9 d'entre eux, et donc il y en avait un qui se retrouvait en rétention au centre de rétention de Metz. Donc on a des nouvelles. Donc lui, il faisait partie de ce qu'on appelle les accords Dublin 2, c'est-à-dire que il y avait déjà une demande d'asile de fait au niveau de la Pologne, et donc théoriquement c'est toujours à la Pologne de traiter son dossier. Alors, sauf que le problème, c'est qu'il n'était pas tout seul. Il était là avec sa mère et sa sœur. Sa sœur, apparemment, est placée au foyer de l'enfance à Chalon. La mère, gravement malade, est hospitalisée à Chalon. Et donc, on voulait juste le renvoyer, lui, en Pologne. Et on a appris cet après-midi qu'il était libéré, qu'il était sur le chemin du retour. On ne sait pas pour par quelle décision, donc on suivra encore l'affaire. Voilà. Mais bon,
je crois que faut, par rapport à ce type de situation, il faut dire quand même que bon, les gens sont pas reconduits. Il y en a plusieurs exemples comme ça. N'empêche que leur situation ne change pas. C'est la précarité énorme. Ces gens-là se retrouvent encore une fois sans papier. Et actuellement, on peut dire qu'en France, et on a l'expérience au moins sur la ville de Reims, il y a des tas de gens qui n'ont pas de papier et qui sont en errance, soit réelle, soit ils s'en sortent grâce à la famille, grâce à les amis, etc. Ou grâce aussi à une solidarité d'un certain nombre de gens. Mais faut le dire qu'on est dans une situation au niveau des sans-papiers qui est de plus en plus préoccupante et catastrophique.
Et pour terminer, on va faire vite fait, la semaine, si vous suivez l'actualité, ou du moins dans la région, mais c'était en fait national, il y a un guichetier qui s'est suicidé à l'affaire la semaine dernière. L'affaire, c'est dans l'Aisne. Alors, avant de se suicider, il a envoyé un mail à deux cadres et à un certain nombre de ses collègues expliquant les raisons de son suicide. Donc apparemment, il était en conflit avec un de ses supérieurs hiérarchiques qui lui voulait le sanctionner en le mettant de brigade, c'est-à-dire de remplacer dans toute la haine les guichetiers qui seraient absents. Chose qu'il n'avait pas. Alors, ce qu'on lui reprochait, c'était de ne pas être assez rentable. C'est-à-dire qu'il passait trop de temps avec les gens qui menaient au guichet. Et donc, c'était ça. Donc, il explique un petit peu tout ce qu'il a subi. Et donc, il y avait un comité d'hygiène et de sécurité qui s'est tenu dans la foulée à Amiens, puisque l'Aisne, ça dépend au niveau, ça dépend d'Amiens. Apparemment, c'est le quatrième suicide de l'année, mais c'est le deuxième très rapproché. Et donc, la Poste veut éviter que ça fasse des vagues, qu'il se passe la même chose qu'il y a eu à France Télécom, et donc va essayer de tout faire pour peut-être faire un peu de rétropédalage et faire en sorte qu'il n'y ait plus de suicide dans ces bureaux. Voilà.
Oui, je crois qu'on y reviendra là-dessus parce que effectivement, ce n'est pas un hasard, c'est moins qu'on puisse dire. S'il y a des gens qui sont amenés à se suicider au travail aujourd'hui, il faut dire que tous ces services dits publics le sont de moins en moins, ne le sont plus du tout, et que maintenant c'est la rentabilité, il faut vendre du timbre, il faut vendre des enveloppes timbrées, il faut vendre ceci, il faut vendre cela, et c'est comme ça que les gens sont notés, archinotés, etc. Bon, avant de se quitter quand même, je voudrais signaler que notre mensuel courant alternatif du mois de novembre, numéro 224, vient de sortir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on vous l'enverra gratuitement. Vous pouvez laisser un mail à OC Libertaire sur Internet.
D'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que
les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, on se quitte, c'était les Régors, chaque semaine sur l'école des Garrigues, Montpellier, Canassu, la Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Vous pouvez aussi écouter nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et aussi sur le site de l'OCL, OC Libertaire.